on a l'immense plaisir d'accueillir Geneviève Hague, que je ne présente pas, parce que vous la connaissez tous. Mais je voudrais simplement dire que Madame Hague est une des plus actives et convaincantes personnalités actuellement d'un rapprochement entre le domaine des neurosciences et de la psychanalyse, notamment dans l'initiative que vous avez eue de créer la coordination internationale des psychothérapeutes et psychanalystes pour la prise en charge de l'autisme, la CIPA, qui a donc pris naissance il y a quelques mois. Que au sein de cette
un an et demi
déjà, mais avec des statuts officiels récents.
Les statuts officiels sont récents.
Donc pour ceux que ça intéresse, on pourra aussi donner des renseignements par rapport à cette association. Dans le cadre de cette association, il y a un petit groupe de travail qui est justement spécialisé dans cette interface entre neurosciences et psychanalyse. Et puis je crois que pour en avoir des échos via le centre de ressources autisme, vous êtes déjà en train de récolter des choses que vous avez semées, parce qu'on sent un certain nombre de personnes nous dire « mais j'ai parlé avec Geneviève Hague » ou « j'ai entendu Geneviève Hague » parmi les plus fervents détracteurs de la psychanalyse. Vous avez déjà réussi à convaincre Catherine Barthélémy et d'autres...
Elle, c'est pas très difficile.
Non, mais je sens vraiment déjà les effets en aval de ce travail de rapprochement. Et puis je vais donc vous laisser intervenir sur ce sujet que vous avez bien voulu traiter avec nous aujourd'hui.
Oui, c'est d'autant plus sincère pour moi ce dialogue avec les neurosciences, que j'ai adoré la neurologie et la neurophysiologie en son temps, et je faisais partie de la génération des concours d'internat pour les hôpitaux psychiatriques de la Seine, où il y avait un programme de neurophysiologie assez fourni, qui n'existe plus maintenant, malheureusement. Bon, j'ai fait beaucoup de stages de neurologie infantile dans mon externat, un peu dans l'internat, mais je me suis toujours interrogée à partir de l'expérience thérapeutique avec les enfants autistes aux sources, au roc organique, au roc biologique, comme disait Freud, des psychopathologies autistiques notamment, étant donné que vraiment ceux qui font des traitements au long cours sentent bien, palpent, je dirais, quelque chose de l'ordre d'une prédisposition que les psychanalystes qui vraiment ont travaillé comme Tustin et Melzer nous le répétaient sans cesse. Il y a quelque chose dans l'enfant. Même si on détracte et si on est extrêmement attentif, évidemment, à l'impact des facteurs environnementaux qui peuvent soit être favorables à l'attraction de l'enfant hors de son système, soit au contraire l'enfoncer davantage pour des raisons peut-être qu'on va avoir l'occasion de détailler. Des recherches depuis quelques années rend le dialogue, disons, souhaitable, même si les médias ont fait avec grand fracas des déclarations en enfourchant le clivage qui s'était produit dans les associations de parents notamment, et avec l'apport des méthodes éducatives revenues des États-Unis pour rappeler aux éducateurs qu'ils pouvaient faire un peu de l'éducation, ce qui, depuis 68 en France, s'était un petit peu délité, alors que moi j'ai connu l'époque où tous ces repérages piagétiens que rappelle Schoppler étaient parfaitement connus et appliqués avec beaucoup de détails. Je vais prendre simplement plusieurs points. Bon, alors les ponts sont encore pour beaucoup à prendre, hein. Mais je vais montrer quelques ponts déjà établis et en espoir de développement que nous ne pouvons pour le moment, nous ne pouvons que les montrer par endroits. Et nous sommes loin d'un rassemblement cohérent d'une part de l'ensemble de la neurophysiologie du développement, hein, c'est vraiment pour le moment soit dans la conception modulaire du cerveau qui commence à être un petit peu abandonnée quand même, hein, soit même dans les efforts intégratifs actuels, nous sommes loin d'avoir, et ça les neurophysiologistes le reconnaissent bien, hein, d'avoir pour le moment une vue d'ensemble cohérente du fonctionnement qui est le soubassement de tous nos comportements et de toute notre superstructure psychique. Donc, à partir de l'autisme, plusieurs points sont particulièrement étudiés, et par nous, les psychanalystes, et par la neurophysiologie. Je prendrai successivement le problème du sonore, par exemple, pour vous montrer où je crois que nous en sommes par rapport au dialogue psychanalyste-neurosciences, le problème du regard, et le problème de l'image du corps. Alors là, ça devient beaucoup plus complexe, mais il y a plusieurs chercheurs, notamment Catherine Barthélémy, qui veut s'attaquer au problème déjà depuis 2-3 ans. Enfin, c'est le dernier. Elle a vraiment fait un programme assez ambitieux du côté d'essayer de cerner comment, où sont les substrats neurophysiologiques de la formation de la représentation du corps. Comme elle le dit d'ailleurs, Catherine Barthélémy, j'ai eu en effet un long entretien avec elle, et elle me dit de toute façon, la complexité des phénomènes cliniques observés est très très loin d'être rejointe pour le moment par les recherches neurophysiologiques, hein, qui restent un petit peu basiques, avec des repérages comme ça, par-ci, par-là. Prenons d'abord le problème du sonore. Vous savez que c'est à partir de... c'était en 2004 que les expériences de Zibovicius ont fait un grand bruit médiatique pendant l'été. Et c'est ça qui m'a fait bondir, parce que c'était vraiment mis en exergue pour détracter tout point de vue psychodynamique. Avec des conclusions tout à fait hâtives, comme « ça y est, maintenant on a trouvé la localisation et vous allez voir, on va pouvoir affiner des programmes de rééducation spécifiques de ce trouble-là, c'est-à-dire la non-réceptivité de la voix dans le sillon temporal supérieur. » C'était une étude sur 5 adultes, d'ailleurs, autistes, et on faisait entendre des bruits variés, dont certains, et puis des voix humaines. Et parmi ces bruits variés, enfin, je vais peut-être me tromper dans le détail, mais il en ressortait que le sillon temporal supérieur était normalement activé par la réception de la voix humaine, et que il y avait sur les 5, d'ailleurs, c'était pas les 5, je crois qu'il y en avait 2 qui n'activaient pas, un qui, au lieu d'activer à gauche, activait à droite. Et puis les 2 autres, je ne sais plus très bien le détail. Eh bien, je peux vous le dire, le détail, parce que j'ai quand même apporté mon petit texte qui essayait de protester aux conclusions de cette étude. Et, j'ai apporté ça.
L'idée étant que les autistes grandis ne traitaient pas la voix humaine comme humaine.
Il la traitait comme un bruit, c'est ça, mais il la traitait comme un bruit, puis c'était pas enregistré à l'endroit où la voix humaine était enregistrée chez les sujets normaux. Alors donc, le communiqué de l'INSERM avait un peu exagéré dans sa propre conclusion, on avait les grandes annonces médiatiques, l'autisme, la confusion des sons, le cerveau des autistes hermétique à la voix, causaliste de façon réductrice, une anomalie cérébrale empêcherait les autistes d'identifier la voix humaine. On faisait remarquer que si les sujets avec autisme participant à l'expérience avaient développé la parole, c'est qu'ils n'avaient sans doute pas été constamment non réceptifs à la voix humaine, hein, c'était évident. C'était l'un des 5 sujets avec autisme avait une activation unilatérale droite de ce sillon, un autre, une petite activation juste en dehors de lui. Les 3 autres n'avaient pas d'activation plus grande à l'audition de la voix. Alors, les sujets normaux indiquaient que 50% du total des sons avaient une origine vocale, 51%, la réponse exacte étant 50%. Les sujets avec autisme n'en indiquent que 8,5%, c'est-à-dire tout de même 17% des sons d'origine vocale étaient retenus comme tels. Bon, alors... À partir de là, moi j'avais proposé, un texte que j'ai remis en main propre à Monica Zilbovicius, J'ai dit, écoutez, ce serait vraiment extrêmement intéressant qu'on vous communique toutes nos observations faites dans les traitements psychanalytiques concernant le sonore. Alors, je vais vous énumérer, certains connaissent déjà un petit peu ces travaux. Par rapport au sonore, vous connaissez tous les enfants autistes qui se bouchent les oreilles dès qu'il y a un bruit un peu fort, ou quelquefois même à la parole humaine, ce qui a fait longtemps dire aux psychanalystes « Ah, il ne veut pas entendre quelque chose de signifiant ». Et nous nous sommes aperçus que ce n'était pas, surtout pour les plus malades, du tout à la signifiance de la parole qu'ils se fermaient les oreilles, mais au bruit de la parole. Alors, comment puis-je dire ça ? Vous savez que la parole est faite de son vocalique et de son consonantique. Nous n'arrêtons pas de faire un son, un bruit, un son, un bruit, un son, un bruit. Alors, plusieurs faits cliniques ont alerté notre attention sur le fait que c'était bien au bruit que les enfants autistes se fermaient. Parce que nous avions des démutisations en son purement vocalique. C'était très impressionnant. Il y avait des enfants qui pouvaient dire « Ah, 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 comme ça. Alors, Madame Mac, veux-tu m'écrire tel nom, par exemple ?» Et tout comme ça, alors, commencer à me dire qu'est-ce qui se passe là. Et ça, c'est déjà très ancien, hein, ça date d'il y a plus de 20 ans. J'avais fait une communication à ce sujet. Et je pensais d'abord, comme cette fille avait en même temps des manifestations de stéréotypies incluant des mouvements d'agression orale et avec des retours persécutoires qui lui atteignaient la figure en même temps qu'elle faisait un espèce de mouvement de morsure de chien et d'aboiement de chien, j'étais à ce moment-là formée pour la psychose et pas pour l'autisme, mais j'avais fait des interprétations concernant le caractère de sadisme oral de l'articulation consonantique, sans aucun effet. Cependant, petit à petit, avec toutes les prises en charge qu'elle avait, elle a commencé à laisser passer des consonnes, enfin des sons consonantiques, en commençant toujours par les sonores, de manière à faire le moins possible exploser l'articulation, c'est-à-dire ce qui fait le plus de bruit. Alors, dans tout le registre des bilabiales et des consonnes profondes, c'était toujours la sonore qui... tout le monde connaît un minimum de phonétique ? Non ? Qui veut un tout petit renseignement là-dessus ? Les consonnes sont en général soit des explosives, soit au milieu de la bouche des sphinctères, hein, mais les explosives ferment un sphincter, antérieur, dental ou postérieur. Et si vous fermez en même temps tout au fond le passage de l'air laryngé, vous faites le maximum d'explosion. Ça s'appelle une sourde. Hein. P. B. C'est beaucoup plus doux. La seule différence qu'il y a, c'est que pour le B, vous laissez passer le son laryngé. Donc ça explose moins. Alors, pareil pour le « que » et le « g », vous entendez. Alors, ils étaient extrêmement sensibles à ça. Hein. C'était vraiment le dur qui était au maximum évité. On commençait à avoir débloqué pas mal, et moi, je restais toujours un petit peu sur mon idée que c'était peut-être, en effet, l'agressivité orale qui était en jeu, qui avait bloqué les choses, surtout qu'il y avait quand même du matériel aussi de ce niveau-là. Et puis il y avait un son qui ne se débloquait pas, c'était le T. Alors on fait venir Madame Chevrier à l'époque, qui était la phoniatre la plus réputée de la région parisienne, Et elle a examiné l'enfant, elle voyait qu'il n'y avait pas de dyspraxie, pas de phénomène praxique, de dyspraxie buccale. Elle ne comprenait pas elle-même, d'autant qu'elle disait que par rapport à la gymnastique articulatoire, le T était, donc vous savez que les dentales, c'est la pointe de la langue contre les dents, T, D, pareil, elle ne comprenait pas parce que c'était vraiment la suite du têtement. Donc, elle ne comprenait pas. Heureusement, je commençais à travailler avec Frances de Steen à l'époque. Et par ailleurs, qui nous commençait à nous apprendre les clivages sensoriels et de faire très attention à ce que ces enfants-là donc, s'agrippaient sur des extrémités des registres sensoriels. En général, s'agrippaient ou fuyait au contraire le dur, ou se noyait, ou fuyait au contraire le liquidien, le mou, le doux, etc. Et quand j'ai présenté ce travail, je me souviens, c'était à Brest, chez Ouzel, une session sur le langage, Ivan Fonagy était là, et j'entends Ivan Fonagy dire le T est le son acoustiquement le plus dur de la langue française. Bon, je suis revenue près de cette fillette et je lui ai interprété les choses en termes de dur et de doux. Et ça a parfaitement marché. Elle a commencé par débloquer quand même le D, la sonore, et puis finalement, elle arrivait à la fin à pouvoir articuler à peu près tout. Alors, c'est donc bien au bruit que ces enfants sont hypersensibles, c'est bien connu, toutes les familles viennent nous dire qu'ils ne peuvent pas supporter de passer près d'un chantier où il y a des perceuses, où il y a même les bruits à la maison des mixeurs, de l'aspirateur, quelquefois, sont phobogènes. Moi, j'ai eu des témoignages de grands-enfants ou d'adultes qui gardaient cette hypersensibilité au bruit, et qui m'expliquait que la tondeuse qui était à 100 mètres dehors lui rentrait littéralement dans la peau, l'atteignait presque dans la chair, et que ça, c'était épouvantable. Ou bien une petite fille qui, au moment d'un bruit de sirène, par exemple dans la rue, se précipitait le plus loin possible dans la pièce, sur le canapé, le dos au mur bien calé, et je lui demandais qu'est-ce qui se passait, ce bruit-là, qu'est-ce que ça lui faisait, et elle me disait un monsieur, et il me rentre dans le zaza, dans le sexe. Bon, il y a donc une pénétrance de ces bruits qui va de pair avec une très grande fragilité ou une non-constitution des enveloppes corporelles et de la contenance corporelle. Alors, de quand date cette hypersensibilité au bruit ? Eh bien, nous avons quelques hypothèses. Alors là, je ne sais pas quand et comment la neurophysiologie va pouvoir nous rejoindre, on peut dire, hein, parce que pour le moment, je dirais que nos constats cliniques sont plutôt en avance sur les recherches neurophysiologiques. Et on attend plutôt qu'elles nous rejoignent. Je vous dirai tout à l'heure quand même que nous, ça nous fait, ce qu'ils découvrent nous fait des représentations confortantes, très confortantes et quelquefois aiguillantes que quelques-unes de nos compréhensions, de nos actions. Nos hypothèses sur le prénatal sont venues du fait que parmi les signes très très précoces du risque autistique, il y a un détournement de la voix humaine et au lieu d'avoir une orientation vers la voix humaine, hein, les bébés des trois premières semaines, ils entendent la voix de la maman et immédiatement ils tournent la tête vers cette voix. Il y a aussi, ils tournent la tête vers d'autres bruits qui deviennent rythmés, familiers. alors qu'on signale des troubles de cette orientation très tôt chez des bébés à risque autistique. Comme si il y avait déjà un détournement in utero de la réception de la voix. Alors, il y avait un phénomène clinique auquel pendant 15 ans, je n'ai rien compris, vraiment rien, mais nous ne faisons qu'enregistrer, que nous faisions seulement qu'enregistrer. C'était un intérêt particulier à la fois du côté de la phobie et au contraire, quand ça allait mieux, du côté d'un hyper-investissement des borborygmes de tuyaux. Alors, quand les enfants allaient mal, dès que j'étais dans une grosse institution, il y avait des grosses canalisations, et par moments, on entendait des gros borborygmes dans les tuyaux, et les enfants qui étaient encore dans leur phobie de ces bruits se bouchaient les oreilles, ou même pouvaient hurler si un gros borborygme arrivait. Et quand ils avaient repris contact et qu'ils allaient mieux, il y avait un phénomène très fréquent, qui était le plaisir qu'ils prenaient au contraire à ces gros bruits. Et ils cherchaient à les provoquer en remplissant les lavabos au moment du vidage du bain, en se penchant l'oreille sur le tuyau, alors qu'avant ils avaient peur de passer dedans, hein, d'être engloutis, et ils écoutaient avec quelquefois un éclat de rire énorme ce gros borborygme de la fin de l'écoulement des lavabos et des baignoires. Bon, je ne sais pas si vous devinez le rapprochement que je vais faire. Alors, on disait par ailleurs, l'autisme, la caractéristique principale, c'est le sameness. C'est la continuité pareille. Et il y a une forte réaction donc aux discontinuités, aux ruptures de continuité comme étant complètement alors dissociante et les mettant dans un état quelquefois de tantrum ou d'hyper-rigidification selon les cas. Alors, l'hypothèse donc, pendant ce temps-là, il y avait des recherches, notamment en Italie, de la part d'une psychanalyste que j'ai souvent citée, que certains connaissent, Suzanne Maiello, qui avait repéré elle-même cette sensibilité au borborygme, et elle avait cru enregistrer, mais je sais que c'est très contesté, les dates sont un peu contestées, hein, ça va sans doute se préciser dans les années qui viennent. Certains disent que la réception sensorielle auditive à la voix de la mère, et pas seulement aux vibrations, hein, ce qui est transmis aussi acoustiquement de l'extérieur à travers la paroi, se fait à partir du quatrième mois environ, quatrième mois et demi de la vie intra-utérine. Et l'hypersensibilité au bruit de type borborygme serait un mois plus tôt. Bon, je ne sais pas si ce sera confirmé, mais en tout cas, il y a quelque chose qui semble se relier. En tout cas, les enfants autistes semblent avoir gardé une analogie, une sorte de perception analogique, analogique par l'aléatoire. Qu'est-ce qui ferait la ressemblance entre le surgissement de la voix humaine sur le fond des rythmicités sonores régulières à l'intérieur des bruits du cœur, qui est un fond sonore perçu même avant la voix, hein, d'après les différentes recherches, et la voix humaine serait un aléatoire qui provoque, comme toute perception différentielle, une émotion au sens d'un sursaut tonique, d'un recrutement tonique, et quand les fœtus vont bien, c'est un sursaut tonique qui probablement est à la naissance d'un certain sentiment d'existence, hein, au sens de la perception conscience très primitive, il faut un différentiel. Donc la naissance du sentiment d'existence et peut-être d'un certain sentiment d'altérité, pas celui que nous avons tous construit entre nous, mais très très primitif, qui qui donne plutôt une sorte de plaisir existentiel, et au contraire, si l'aléatoire est mal reçu, ça peut être un gouffre existentiel. Donc, il semble bien que l'aléatoire chez ces enfants-là, à cause de la prédisposition, où est le point génétique ou les points génétiques qui font que cette réception d'un tout premier niveau émotionnel, dont on va dire un mot, est la catastrophe, au lieu d'être le sursaut normal, c'est là le mystère et c'est là l'interrogation vers les neurosciences et la génétique. Je branche ici les dernières formulations d'André Bullinger quand il récapitule ses études sur le sensorimoteur et sur l'établissement de la plateforme sensori-émotionnelle et tonico-émotionnelle dans le sillage des travaux d'Henri Vallon qu'on avait un peu oublié dans certains courants. Notamment, il y a rarement des jonctions entre le courant psychanalytique et le courant wallonien. Je signale aussi que ce courant wallonien est tout à fait présent dans les travaux de Jacqueline Nadel aussi. Alors, sa dernière formulation, j'ai dû vous l'apporter, mais je peux vous la restituer. Et tout d'un coup, ça m'a fait... Je connais bien ses travaux depuis longtemps, mais il dit que... au départ, l'organisme reçoit des impressions sensorielles. Toute impression sensorielle provoque un recrutement tonique. Et ça, il y a bien des chercheurs qui ne s'en occupent pas encore. Un recrutement tonique, et la régulation de ce recrutement tonique, c'est le domaine de l'émotion. Nos réponses émotionnelles sont toutes basées sur ces réactions toniques, tout à fait à la base. D'ailleurs, le langage courant les consacre complètement, les émotions un peu fortes, je suis liquéfiée, ou bien je me sens obligée de me mettre sur un cadre d'acier pour tenir le coup, des choses comme ça. Quand dans une émotion un peu forte, on s'effondre. Dans la dépression, on s'effondre parce qu'il y a une chute de tonus. Donc, le moment de l'impact émotionnel est un moment qui modifie le tonus. Alors, dès la vie prénatale, il y aurait cette réponse tonique. Et Bullinger dit, dans les changements brutaux de réception sensorielle lors de la vie fœtale, qui font la vie fœtale, eh bien, la première réaction tonique d'un fœtus comme d'un nouveau-né, c'est l'extension dorsale. C'est l'hyperextension. Et cette hyperextension, si elle est trop forte, elle va figer tout le reste du développement, elle va gêner tout le reste du développement moteur. Et il dit, ça provoque donc un arc en arrière, et il dit que in utero, c'est le contact du dos avec la paroi, surtout à la fin de la vie prénatale, avec la paroi matricielle, qui donne une courbe qui reçoit cette hyperextension et qui lui donne une contrepression enroulante, au contraire. C'est-à-dire, ça va être, c'est déjà la réponse de l'environnement pour moduler le tonus. Bon, vous connaissez tous ceux qui s'occupent des bébés, ces bébés en hyperextension qu'on n'arrive pas à ramener, justement, tellement ils sont dans cette perdition arc-boutée en arrière quand vraiment les choses ne se vont pas depuis le début et peut-être depuis la vie prénatale. Alors ça, c'est très très intéressant parce que ensuite, quand la polysensorialité, la consensualité, disons, va se former dans la vie postnatale, organiser la perception et organiser la régulation émotionnelle, et je pense que ça va vraiment de pair. Et là, il y a beaucoup de choses à chercher dans les réseaux neurophysiologiques. Les autistes racontent tous quand ils se reconstruisent, ils racontent tous qu'il faut d'abord retrouver ce calage du dos. Ils acceptent à la rigueur que nous, on les approche avec le tactile du dos. Et ce tactile, j'en viens à penser, surtout avec les travaux de Bullinger, que ça contient cette contre-pression de la peau du dos, disons, pour réguler ce désordre tonique, donc émotionnel, quand il a existé. Alors là, c'est très impressionnant, parce que les autistes, donc je vous refais la démonstration que je fais souvent, hein, d'une manière ou d'une autre, soit en se calant sur un meuble, soit en se mettant la main derrière la nuque, qui est l'endroit où on soutient d'ailleurs, même en postnatal, le corps du bébé. Hein, une large main d'adulte, c'est à cheval sur la nuque et le dos. Et ils disent, il faut ça, plus ça, plus l'interpénétration du regard. Ils m'ont appris, chemin faisant, que dans cette contre-pression du dos, étaient logées des rythmicités sonores. Donc cette réception de la voix maternelle, les bruits, les rythmes de base et le sonore, la musicalité de la voix humaine se tissait dans ce tactile tonus du dos. C'est évidemment tout à fait logique, hein, quand on repense à tout ce que je viens de dire et à la succession des positions du bébé, du fœtus, du bébé et de l'action de l'environnement, de ce que renvoie l'environnement du côté de la sensorialité, c'est d'une logique parfaite. Donc, on en vient au rôle du regard pour intégrer la consensualité, c'est-à-dire la polysensorialité qui doit se condenser pour faire la perception des formes. Alors là, je me rebranche avec la neurophysiologie. Ah oui, donc je vous signale au passage que concernant la réception du sonore et le problème de la réaction anormale à l'inattendu, donc le Semnes de Kanner, Catherine Barthélémy a fait une étude très intéressante, électrophysiologique, où elle a fait entendre des sons continus, d'abord d'une rythmicité continue, et tout d'un coup, elle fait une petite différence, il y a un petit saut, une différence de rythme, et puis elle reprend son continuum, etc. Et elle observe une réaction anormale des enfants autistes à la rupture de continuité de la réception sonore. Cette réaction à l'inattendu s'appelle la mismatch négativité, j'ai appris ça, et a donc un certain circuit chez les personnes sans autisme, et chez les personnes autistes, il y a une anomalie. Donc on voit bien que cette réaction à la discontinuité, à l'inattendu, peut très bien se mettre à faire dévier tout un circuit qui devrait aboutir au sillon temporal supérieur à la réception de la voix humaine. Si la voix humaine fait rupture à cause de sa discontinuité, donc combinée au borborygme, enfin c'est comme ça que cliniquement on l'observe, évidemment l'aboutissement au sillon temporal supérieur ne va pas se faire. Alors à partir de là, en plus du problème de la discontinuité, les enfants organisent, les adultes organisent donc des clivages dans la qualité sensorielle de la réception. Donc le clivage dur, doux, et en matière sonore, c'est son, bruit dont je vous ai parlé. Et c'est un des phénomènes cliniques les plus caractéristiques, on peut dire, de l'autisme. Alors, est-ce que, ayant fait ce clivage, alors là, moi, j'attends que la neurophysiologie s'affine encore pour, je dirais, donner, peut-être reconnaître les substrats neurophysiologiques de ce que nous appelons les clivages, qui, en fait, peuvent très bien se concevoir comme des inhibitions de frayage, Hein, un frayage est bloqué, l'autre est facilité. Le cerveau, il marche comme ça. Alors, un des moyens pour les enfants autistes qui ont cette hypersensibilité et à l'inattendu et au bruit, c'est donc d'organiser ce clivage dont je vous ai parlé à propos des démutisations. Et comme ça, la voix humaine, si la voix humaine se met, ayant repéré ça cliniquement, à se musicaliser au maximum, ils reçoivent. Si on articule trop fort, ils coupent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'ont à faire les thérapeutes, et toute personne qui s'approcherait d'un enfant autiste, c'est de musicaliser la voix au maximum. Je connais des thérapeutes qui chantent leurs interprétations. Hein, ça passe. Vous voyez? Bon, alors, comme ça, ça passe. Alors, on serait très, très, très curieux de voir ce que donne l'IRMF avec des propositions comme ça, comme on en fait en clinique. Et qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui ne passe pas? Et pourquoi un sillon, pourquoi une région temporale se trouve même morphologiquement diminuée? Si ça a été coupé, ces frayages, depuis la vie prénatale, on peut très bien avoir, et ça les neurophysiologistes disent tous, hein, on peut très bien avoir des non-développements de substances cérébrales, de cellules cérébrales, hein, et de leur frayage. Ça, c'est très impressionnant. Et tout le monde dit, alors là, ils disent les premiers, en s'y prenant très très tôt, avec la plasticité cérébrale, le cerveau n'est pas fini. Si on stimule très tôt, d'où les programmes de stimulation forcenée à 40 heures par semaine, proposés maintenant, à partir de 2 ans, par la méthode, c'est pas tellement la BA, il paraît que c'est Libé, oui.
La BA est dommage.
Et oui. Mais vont-ils débloquer pour autant le circuit émotionnel? Ça, on n'en est pas sûr. Parce qu'ils ont l'idée du cognitif, et pour le moment, bien que disant que tous ces circuits cognitifs, imaginons de cette zone préfrontale de la mismatch négativité vers le sillon temporal supérieur, ils disent tous que ça plonge dans le système limbique à chaque fois, mais ils n'en tirent pas pour autant tous les conséquences que ce sont ces circuits-là qu'il faut étudier, c'est-à-dire les circuits cognitivo-émotionnels qui vont peut-être nous donner des indications précieuses. Alors, je prends le problème du regard, puisqu'ils racontent tous que c'est la pénétrance du regard qui va permettre donc la formation de la contenance et de ces représentations kinesthésiques et visuo-kinesthésiques, et à la formation des formes. Alors, une des choses que disait beaucoup la neurophysiologie jusque récemment, c'était les enfants autistes ne peuvent pas communiquer parce qu'ils n'ont pas de reconnaissance des émotions sur le visage. Ils ne savent pas décrypter un visage. Moi, je me dis depuis longtemps, mais étant donné qu'il fuit le regard, tant qu'il fuit le regard, la perception du visage, je ne sais pas s'ils ont pu tellement la décrypter. Et vous savez que ça se fait très très tôt, dans l'intense visage à visage, avec tous les travaux sur l'imitation précoce. Et l'empathie qui passe par l'imitation précoce, et donc les jeux des imitations de mimique, c'est comme ça que ça se construit. Alors les enfants autistes qui détournent le regard, évidemment, on ne voit pas comment ils feraient ce travail. Ceci dit, des chercheurs ont essayé de dissocier la reconnaissance cognitive des émotions sur le visage, c'est-à-dire on apprend aux autistes à reconnaître un visage qui pleure, un visage, et à nommer, même pour ceux qui parlent, à nommer ces émotions. Et ils sont parfaitement capables d'avoir cette reconnaissance cognitive des émotions. Mais ils n'en ont pas la résonance émotionnelle. Et ça, là, il y a des travaux extrêmement intéressants, qui sont ceux, principalement à ma connaissance, mais il y en a sûrement d'autres, de Bruno Vicker et de l'équipe de Marseille. Il a cherché, justement, il a montré que il y a d'autres recherches aussi qui l'ont montré, notamment celle de Moldron, je crois. Parce qu'alors, par rapport à la perception des visages, on avait repéré que les autistes, au lieu de regarder centralement, regardent les petits détails de la périphérie. Donc, ils s'accrochent à la périphérie. Parce que regarder centralement, ça veut dire plonger dans le regard, et cette plongée dans le regard a l'air pour beaucoup engloutissante ou désorganisante du peu qu'ils ont pu organiser. Et, alors, il y a des recherches. Alors, voilà ce qu'il dit, par exemple. Le traitement des émotions est très souvent effectué de manière automatique, voire quasi inconsciente. Les informations ainsi traitées ont ainsi une influence sur la cognition. C'est pourquoi nos lignes de recherche s'orientent d'une part vers l'étude des corrélats cérébraux de la perception subliminale d'informations émotionnelles et d'autre part vers l'étude de l'influence du contexte émotionnel et donc de l'état émotionnel du sujet sur la cognition. Mais ce qu'il a montré avant, c'est que l'enregistrement de données physiologiques avec des mesures d'activité cérébrale par IRMF ont montré l'existence de réseaux fonctionnels anormaux, c'est-à-dire qu'il nous a montré les schémas. Chez le sujet normal, par exemple, les circuits qui vont du préfrontal au gyrus fusiforme pour ce qui est du visage, à l'amygdale, enfin tout ce qui va du cortex plus évolué à la plongée justement dans les noyaux qui ont pour fonction de réguler l'émotion et de s'occuper justement de cette perception des émotions. Il dit que chez l'autiste, il évite cette plongée dans ces noyaux profonds. On voit que le circuit passe ailleurs. Donc, court-circuite la résonance émotionnelle profonde. Alors ça, c'est vraiment très impressionnant. Il dit, même s'ils peuvent réaliser une tâche impliquant un traitement émotionnel, ils engagent des réseaux cérébraux dont la dynamique d'activation est distincte de celle des sujets témoins. Pourquoi évite-t-il donc cette résonance émotionnelle? Eh bien, c'est le problème déjà pour la rencontre du regard. Des travaux récents, enfin depuis déjà quand même quelques années, résumés par Alain Berthaus, par exemple, dans son livre, un de ses livres, soit celui sur l'autisme, soit celui sur l'empathie, dit bien que toutes les tentatives d'enregistrer ce qui se passe dans l'œil à œil chez des sujets avec autisme, active l'amygdale qui est donc dévolue à ce traitement des émotions, l'active, enfin fait flamber, comme ils disent, l'amygdale. Ça s'allume de manière maximale. Alors là, ben là, voilà, on est sur un... Est-ce que c'est le primum movens? Est-ce que, tout comme pour le sonore, c'est l'impact émotionnel de quelque chose dans la réception du sonore tel que et dans l'œil à œil qui pour le normal est absolument fondateur de tout ce qui va se développer pour la consensualité, pour l'image du corps, pour toute la suite de la vie cognitivo-affective, qu'est-ce que c'est que cette dysrégulation ou non-régulation émotionnelle à l'œil à œil. Moi, je dis que point d'interrogation. Ça rejoint évidemment toutes les observations cliniques. Vous connaissez peut-être certains d'entre vous les témoignages d'adultes intelligents, autistes, comme Donna Williams, hein, qui dit, moi, l'œil à œil, pas possible. Hein, ça me fait perdre pendant quelques heures ou quelques jours toutes mes cognitions. Elle dit qu'elle est perdue. Dépersonnalisée, désorientée, ses repères habituels, elle les perd complètement. Enfin, ça fait un état de dépersonnalisation tout à fait important. Il y a pas mal d'enfants autistes qui racontent, eux, qu'ils tombent et sont engloutis dans le regard. Par exemple, ils vont mimer la chute et quelquefois la chute tourbillonnaire. Il y a donc l'œil engloutissant, et il y a aussi un autre trouble qui est, enfin une autre, comment dire, une autre précision qu'apportent les enfants autistes. L'œil, c'est un pointu qui pique méchamment, hein, et qui va vous arracher quelque chose de l'intérieur, un œil prédateur. Alors, je raconte souvent, hein, c'est les enfants qui... Alors, ils attendent qu'on comprenne ça, et vertu quand même de l'interprétation juste, et là, je voudrais bien savoir ce que les neurophysiologistes pensent de ce qui se modifie, comment ça se modifie, quand on communique une compréhension, c'est-à-dire une réception, justement, de ce qui est envoyé par l'enfant, et qu'on répond, et ça fabrique un point de rencontre, semble-t-il, qui petit à petit va faire l'enveloppe et colmater les choses. Alors les enfants autistes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je donne la démonstration d'une de leurs manœuvres les plus fréquentes. Quand ils veulent aborder avec nous ce problème de l'œil prédateur, ils s'approchent mine de rien, en général avec deux objets pointus, hein, je le raconte souvent, deux objets pointus. Ils viennent vous frôler, quelquefois il y a un petit coup d'œil dans le coin, ils viennent vous frôler là, et hop, ils passent là. Si vous ne faites pas attention, vous allez avoir ça pendant des semaines et des mois comme une démonstration de leur quête, qu'on leur dise des choses précises à ce sujet. Si on leur dit « Oh, tu voudrais bien me regarder un peu dans les yeux, mais on dirait que tu as peur d'avoir des yeux qui piquent comme des crayons tout pointus. » ou bien, et à l'inverse, hein, que l'autre ait des yeux qui vous piquent méchamment. Généralement, on débloque le regard assez vite avec des interprétations de ce style branchées sur leur démonstration extrêmement précise. Alors là, il y a deux études américaines, je reviens à la neurophysiologie, deux études américaines quand même intéressantes, parce qu'on ne peut pas les accuser d'être favorables à la psychanalyse. Qui disent carrément, bon, une des études conclut qu'il pourrait s'agir d'une menace inconfortable, en remarquant donc l'intense activité de l'amygdale, alors que la zone cérébrale associée à la perception du visage, la région fusiforme, elle, est fondamentalement normale chez les autistes, mais montre une activité réduite puisqu'il coupe le circuit à la réception du regard. Ce qui fait suggérer que le détournement du regard présente un rôle fonctionnel. Voilà, nous pourrions traduire, nous dirions une fonction défensive. C'est ça qu'on appelle défense primaire, hein. C'est ces coupes-circuits là qui, pour éviter quelque chose qui bouleverse, qui fait perdre la contenance. Alors, concernant la menace, pouvons-nous nous relier cela à la communication faite par certains enfants de leur peur prédatrice, comme je viens de vous décrire. Une des enfants qui m'a bien aussi raconté les peurs prédatrices au niveau où elle regardait des images, c'est qu'elle voyait, mettait sur la page d'un bel enfant avec des yeux bleus, magnifiques, etc. Puis elle faisait avec son doigt un bec d'épervier qui fondait sur l'œil de l'enfant, de manière comme un vautour. Hein. Vraiment, c'est très impressionnant. Bon, on rencontre dans les psychoses, hein, des peurs prédatrices du regard, qui faudrait voir d'ailleurs quel lien elles ont avec ces phénomènes-là. Donc, voilà où nous en sommes pour les peurs du regard, et vous voyez qu'il y a beaucoup de jonctions entre la neurophysiologie, là, et nos constats cliniques. Et quand des enfants ont élaboré... Les enfants autistes de bon niveau intellectuel ont progressivement élaboré cette histoire-là. Par rapport au thème de la chute, par exemple, j'ai eu un enfant qui était vraiment intelligent, qui est en faculté actuellement, et je crois qu'on ne peut vraiment plus voir grand-chose. Sauf que lui sait qu'il est, s'il y a un noyau résiduel, c'est son hyper-réaction émotive aux grands événements, aux choses justement inattendues ou à certains stress comme le résultat d'un examen. Et ce garçon sait qu'il doit se préparer, des fois organiser des petits rituels pour se préparer à l'impact de ce moment émotionnel. Il y a donc une fragilité émotionnelle qui, à mon avis, reste même chez les mieux guéris, disons. Mais ce garçon, donc, a évité le regard très, très, très longtemps. Et en tant que jeune enfant, il avait une fixation stéréotypée aux lampadaires et aux lampadaires de l'éclairage public et aux lumières du plafond. C'était un de ses principaux agrippements. Mais surtout le lampadaire qui... C'était comme une forme, il y avait quand même une forme qui s'était constituée, mais c'était comme une forme coupée, comme le col de cygne. Et donc, dans mon bureau, je n'ai pas compris pendant longtemps pourquoi il ne voulait jamais que j'allume le lampadaire qui était près de ma tête. C'était impossible, alors qu'il s'agrippait au lampadaire dehors. Et à une certaine étape très évoluée de son traitement, où il retravaillait le problème du regard, il m'a dit un jour en riant, en regardant par la fenêtre, « Je saute ». Et j'ai dit « Ah bon, où est-ce que tu atterrirais ?» Et il me regarde bien en riant, il me dit « Dans un lampadaire ». Alors j'ai dit « Ah, mais je comprends pourquoi tu ne voulais jamais que j'allume le lampadaire près de ma tête. » C'était la peur de tomber vraiment dans mes yeux, lampadaire, au lieu de s'y agripper volontairement, lui dans son choix d'agrippement avec les lampadaires du dehors. Il y a donc pour le regard cette idée du saut dans le regard de l'autre qui est très très forte. Et est-ce qu'on va rebondir de ce saut, ou est-ce qu'on va être englouti dans l'œil de l'autre? Alors, je ressors là mon schéma, que plusieurs connaissent sans doute, mon schéma de contenance qui m'a été fait par un enfant autiste, ou plutôt le dessin dont j'ai tiré le schéma. C'était un dessin au tableau, donc je ne l'ai pas, et qui résume un peu le problème, enfin ce qui est ressenti et élaboré en dessin de la communication précoce. C'est un enfant qui, après avoir fait le jeu dos, regard, etc., ça donne une entourance, me fait ce petit schéma-là, hein, une série de boucles rayonnantes, et j'ai mis assez longtemps à essayer de penser qu'est-ce qui se passait pour qu'on ne tombe pas justement de l'autre côté du visage de l'autre. Bon, c'est la communication primitive qui a une image motrice de lancer de quelque chose. Lancer de quelque chose, c'est pas une idée, c'est pas une pensée élaborée, c'est pas quelque chose. C'est d'abord une sensorialité ou une polysensorialité portée dans une image motrice. Au niveau oral, par exemple, c'est la grappe de sensations de la zone érogène qui part avec l'image motrice à travers le regard au fond de la tête de l'autre. Je dis ça parce que quand ça ne marche pas et quand ça tombe, eh bien, la polysensorialité du pourtour de la bouche est partie. Les enfants autistes ont une amputation de cette zone de contact. Pour ceux qui connaissent les travaux de Pierre Aulagné, hein, c'est la zone objet complémentaire. Et c'est parti. C'est en hallucination négative permanente, disent certains dans le vocabulaire psychanalytique actuel sur l'hallucination positive négative. C'est très impressionnant. Et ce qui ramène la bouche. Je le dis souvent, hein, attention, les thérapeutes, c'est pas de redonner le biberon ou de donner quelque chose dans la bouche. C'est d'essayer de récupérer le regard, et si vous récupérez les échanges par le regard, la bouche se remet en place. Il y a donc bien quelque chose qui se passe dans la première communication, dans une intime confusion, j'allais dire, un intime entremêlement entre les sensorialités de la bouche et l'œil à œil. Ça, Freud ne l'avait pas vu. Hein. On est obligé de le développer maintenant, après quelques psychanalystes qui ont signalé que ça devait être très important, comme Francis Pache ou Paul Coulaud-Racamier en France, qui s'occupaient pas mal de borderline et de psychotique. Ils avaient bien signalé qu'il fallait s'occuper de ça. Alors là, les enfants autistes, évidemment, nous démontrent tout le détail de ce processus. Et ils sont conscients du processus, c'est ça qui est extraordinaire. Moi, ça, c'est mon grand mystère. Hein. Comment sont-ils conscients, au moment où ils récupèrent ces formations premières, qui sont d'abord le moi corporel, qui sont d'abord ce sentiment d'entourance, ce sentiment d'axe, etc. Ils vous expliquent comment se fait le développement. Ils ont une conscience processuelle du phénomène, avec des représentations qui vont jusqu'à ces représentations graphiques tout à fait impressionnantes. Alors, j'ai mis dans la lucarne, hein, vous voyez, que le point de rebond, alors ça rejoint là aussi, ça s'entrecroise avec les travaux du courant cognitif, hein, tous les travaux sur l'empathie, sont au point de rebond. Vous voyez le petit épaississement que j'ai fait, qui est, il faut que l'environnement, l'objet externe, comme on dit en psychanalyse, rencontre suffisamment de mêmeté, c'est-à-dire du pareil de ce qui est envoyé, une résonance suffisamment pareille. Là, vous pouvez brancher tous les travaux sur l'imitation précoce. Donc suffisamment de mêmeté et suffisamment de pas pareil pour faire sursaut de surprise justement et faire rebondir et ce pas pareil que là je rejoins les travaux de Bion sur la transformation et les travaux de Daniel Stern sur le transmodal, hein, le bébé envoie les choses par un canal sensoriel, la mère répond par un autre, vous avez déjà un différentiel. Et en plus, il y a des transformations avec la voix beaucoup, hein, mais avec le tonus aussi, à toute la régulation tonique, elle participe à ce point de rebond. Et donc, si la transformation ne marche pas, soit que ça vienne du bébé, soit que ça vienne de l'environnement, eh bien, c'est le gouffre. Et à partir de là, il y a un évitement de cette rencontre émotionnelle, et la boucle est coupée quelque part, par la constitution dans la stéréotypie, dans l'enraidissement musculaire, dans les agrippements sensoriels, les sujets se font une néolimite, hein, une carapace autistique, etc. Donc vous n'avez plus ce point de rebond développemental qui va permettre aussi d'établir par rapport à ces formations premières ce qu'on appelle la stabilité structurelle de ces représentations géométriques de base de l'image du corps. Ça, c'est très important. Il y a des travaux qui détaillent tout cela. Et donc, je peux vous donner les références. Alors, je signale par rapport à cette histoire d'image du corps qui va donc, vous voyez, être un phénomène extrêmement complexe qui va commencer avec cette perception d'entourance qui est déjà une pensée abstraite. Je dis ça parce que de plus en plus de travaux actuellement soulignent qu'il y a une abstraction primaire qui est très importante pour peut-être ce que Bernard Gibello a cherché à approfondir des contenants de pensée, vous savez, et qui rejoignent toute l'histoire de l'image du corps. On peut dire que ce point de rebond est à la fois donc un point d'abstraction. Alors voilà les quelques points déjà d'articulation que je peux signaler. L'image du corps, comment j'ai appris qu'elle se construisait? Premièrement la sphère, hein, ce sentiment d'entourance qui est notre espace proxémique avec un noyau central d'attache d'abord dans la dans la tête, dans la zone orale, avec le centre langue mamelon, qui est bien signalé par tous les psychanalystes. Et puis ensuite, ce milieu qui a quelque chose à voir avec le sentiment de cohérence interne, qui est à la bouche de tout le courant cognitif, va faire que quand l'axe se construit, c'est la continuité de ce noyau d'attache. Et certains connaissent peut-être les travaux sur les deux côtés du corps, donc j'ai appris chemin faisant grâce aux autistes en particulier, et puis on voyait bien le correspondant chez les bébés, que l'hémicorps dominant, toujours alors à partir du point de rebond qui est différenciant et asymétrisant du coup dans le corps, l'hémicorps dominant est assimilé aux fonctions maternelles. Dans une sorte, pendant que la sphère communique, le côté dominant est adhésivement identifié au corps de la mère, et tout comme dans la première phase, le pourtour de la bouche est adhésivement identifié au sein, et au moment de la séparation, hop, l'auto-érotisme colmate, et petit à petit, l'auto-érotisme se dédouble de la réalité, disons, et n'est pas. La main n'est pas la mère, et le bébé se différencie vraiment, mais garde dans son côté maman, garde ses identifications primaires et fait toutes sortes de jeux de mains qui vont articuler le corps autour de l'axe. Et il se passe la même chose au niveau de l'axe horizontal. Les membres inférieurs sont d'abord attrapés pour faire de l'auto-érotisme, hein, pour mettre le pied à la bouche, et sont intégrés avec un plaisir d'épreuve de solidité de la tâche autour de la charnière horizontale. Et ça se passe, ça confirme là les zones érogènes du bas du corps, qui sont dès lors investies et organisées avec leur propre dynamique. Sur laquelle je ne reviendrai pas, ça c'est la théorie psychanalytique tout à fait classique. Mais vous rencontrez en clinique des corps mal attachés, des axes, des enfants qui se disent coupés en deux et qui ne sont pas soudés dans l'axe vertébral, ou des enfants pseudo-paraplégiques par exemple qui n'investissent pas leurs membres inférieurs, ce qui donne certains retards psychomoteurs tout à fait particuliers chez les enfants à risque autistique. Donc le moi corporel se. Et d'emblée, vous voyez, corporo-psychique, mais s'organise entre le sensoriel et la représentation formelle qui va former la représentation de choses, la possibilité de voir un objet objectalisé et non plus appréhendé sans forme, avec juste la brillance des couleurs, par exemple, comme Huxley le décrit très bien dans Les Portes de la Perception. Ou sous drogue, on arrive à reconstituer des états très primitifs où il n'y a plus de contours, il n'y a plus de forme, et seule la brillance, par exemple, existe et permet une sorte d'extase de paradis artificiel.
Alors, qui décrit ça ?
Huxley. Dans Les Portes de la Perception, c'est une très belle description de cette régression, et c'est très intéressant dans le détail parce que en même temps, il y a une partie de lui qui reste observatrice. Alors on lui demande, pendant l'expérimentation, on lui demande au moment où il sort de sa fusion avec le bril, et alors là, en clinique d'autiste, hein, se fusionner avec le bril, c'est un des grands symptômes, et il dit quand les formes, puis alors on lui demande l'architecture, on dit oh, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Je crois que les murs sont plutôt de travers, enfin, donc le vertical horizontal est mis par terre. Or, le croisement des axes est très important dans la construction de l'image du corps. Et il dit à un moment, ah, je baisse les yeux sur mon pantalon et il y a une forme qui m'intéresse, c'est l'ondulation des plis de mon pantalon. Bon, je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais la forme ondulante est une des premières formes aussi investies par les autistes sur la voie de la construction de la sphère. C'est très intéressant. Un des enfants qui travaillait cette histoire de chute ou pas chute dans le regard, au moment où il disait qu'il y avait un fond, alors il se mettait le dos contre une de nous, il plongeait les yeux dans l'autre. Et sorti de cette retrouvaille, du contact du regard et du dos, il allait palper les ondulations d'un grand rideau de séparation, qui avait justement un système d'ondulation du port hasard, et pas du tout, c'était vraiment la forme ondulation qui l'intéresse, puisqu'il allait ensuite à la paillasse de l'évier, et il palpait la même ondulation sur la paillasse de l'évier. Vous voyez donc que l'importance de cette construction des formes, projection de ce qui est en train de se ressentir dans l'image du corps, et ça organise absolument tout ce que Freud a appelé la représentation de choses, hein, c'est ça. Ça n'existe qu'à partir de la capacité d'organiser les formes. Alors, cette structure s'introjecte à un moment donné, ce que Esterwick et Bion ont appelé l'introjection de contenance. Et quand ça s'introjecte, il y a une image de double feuillet. Je ne parle pas aujourd'hui de voyez ça. Et l'image du double feuillet, les rythmicités qui se forment avec l'eau dans la peau commune, on peut dire au départ, ça se dédouble et il y a une image comme ça, comme un Porsche roman, hein, avec un double feuillet et des rythmicités d'échange entre les doubles feuillets. Et que moi, depuis le début, j'ai pensé à l'espace transitionnel, au préconscient, etc. Et quand j'ai présenté ça dans ma société, André Green, qui est notre spécialiste de l'autisme et qui s'intéresse beaucoup, a également été tout à fait intéressé par ce schéma des rythmicités qui permettent la réflexivité interne, hein, à partir de là. Et à partir de là, comme par hasard, les peaux se séparent. Tout naturellement. Pas besoin d'arrachement, toujours un petit arrachement au sentiment de séparation, mais quand ça est introjecté, c'est intéressant. L'image d'ondulation, la voilà dans un... Les dessins préfiguratifs des enfants de la troisième année de la vie retracent toutes ces formations-là. Hein. Voilà une image d'ondulation avec le point au fond de l'ondulation. C'est très très intéressant. Puis ça aboutit aux formes solaires après. Il y a une étude du dessin préfiguratif qui suit à la trace, qui exprime au niveau du dessin toute cette première formation.
Cette tâche, elle représente la rencontre.
Elle représente la rencontre, elle représente ce point de rencontre émotionnelle, justement. Alors, comme vous savez, cette émotionnalité primaire est qualifiée par quelqu'un comme Melzer de rencontre esthétique, et que la réciprocité esthétique, c'est-à-dire si l'enfant envoie dans les premiers regards une espèce d'extase à la lumière, si la mère elle-même admire et est un peu en extase devant son bébé et lui renvoie l'émotion esthétique, il y a une rencontre qui fait rebond. Il faut suffisamment de réciprocité et suffisamment de transformation.
On a envie qu'elle soit brillante.
Alors, il y a une image de ciel étoilé qui est très utilisée pour la formation de cette calotte sphérique comme première représentation de l'image du corps.
Moi, je suis assez fascinée de la manière dont vous avez tissé ces liens entre les disciplines. Je trouve que c'est probablement parmi les orateurs qui sont venus là, vous êtes la première à aller aussi loin dans la... dans le tissage entre les deux. Mmh. Et de manière que je trouve assez remarquable, parce que vous travaillez d'abord sur les liens entre les modèles. Quand vous parlez du réconfort des découvertes neurophysiologiques par rapport à une clinique qui aurait déjà trouvé ça, vous avez une autre position qu'Alain Pommier qui dit que les neurosciences démontrent la psychanalyse. Il ne s'agit pas de démontrer, mais il s'agit d'avoir des réseaux convergents. Mmh. Et qu'il y a quelque chose comme ça d'une humilité réciproque qui est plus du réconfort que d'une forme d'évidence qui vient de conforter justement les uns et les autres dans le fait qu'ils aient raison ou tort. La deuxième chose, c'est que vous nous dites bien comment on arrive à construire des objets communs. Quand vous parlez comme ça de la conception neurophysiologique de la défense, presque, dans la question de l'évitement du regard, c'est quelque chose d'assez beau et ça donne envie probablement d'aller plus loin dans la question à la fois de reconsidérer la défense dans des mécanismes extrêmement physiologiques, et puis de voir comment des mécanismes physiologiques peuvent avoir effectivement des effets défensifs. Et puis le troisième point, c'est que vous montrez vraiment comment ça a un effet thérapeutique quand vous parlez de chanter les interprétations. Là, c'est quelque chose qui est absolument... Moi, je trouve ça fou parce que c'est des intuitions qu'on a, effectivement. Moi, il m'est déjà arrivé de chantonner des choses avec des enfants sans langage, sans arriver à percevoir à quel point la question comme ça de la continuité, de discontinuité, de l'aléatoire, de la saillance ou de la prégnance, comme dit René Thom, dans l'organisation des systèmes complexes et des modèles du chaos, est quelque chose qui est pertinent au regard de ces découvertes neurophysiologiques. Donc, on voit bien comment on peut réinventer ce que vous nous dites en des modalités thérapeutiques ou redonner corps à des modalités thérapeutiques intuitives qu'on avait faites comme ça.
Oui, et qui... Enfin là, en effet, il y a rassemblement des choses déjà élaborées et utilisées dans le courant psychanalytique. Ouais. Et puis, mais en neurophysiologie, on va voir avec Catherine Barthélémy notamment, comment ils conçoivent ces histoires de clivage sensoriel. Alors ça c'est quand même très intéressant. Et par rapport à la résonance émotionnelle, ça se joue, le clivage sensoriel se joue pour éviter l'explosion de la contenance qui existe à un moment X.
Une forme de démantèlement.
Alors, quand le démantèlement est possible, la défense est réussie. La défense en agrippement sur les composants sensoriels, c'est ça le démantèlement de Melzer, c'est l'explosion perceptuelle. C'est pas les clivages schizophréniques ou le minute splitting de Beyond. C'est vraiment le défaisage des liens de la consensualité qui se forment dans l'élan tonico-moteur et dans cette fameuse représentation motrice. C'est ça qui fait la consensualité. Et c'est Bullinger aussi a une très belle formule. Il dit que les sensorialités se convergent, s'unissent dans la montée tonique émotionnelle, qui est ce mouvement de la boucle, finalement. C'est très impressionnant.